Et donc, une fois qu'on a compris un peu qui on était mieux, il faut qu'on comprenne un petit peu qui est l'autre en face de nous. Et ça passe par plusieurs choses. C'est comment je conçois l'autre et comprendre que l'autre, c'est pas une extension de moi-même. C'est pas une moitié de moi. Je ne suis pas une moitié non plus de quelque chose. Et en comprenant conscience que l'autre va se poser les mêmes questions, va avoir le même problème avec ses vulnérabilités, ses insécurités qu'on peut avoir nous-mêmes, ça va nous permettre d'arrêter de projeter nous sur lui ou elle. Et de lui permettre aussi de respecter ce qui est important pour elle ou pour lui.
On peut raccrocher ça du coup au processus d'individuation en psycho. C'est vraiment intégrer l'autre comme l'autre n'est pas moi et donc intégrer l'altérité. Finalement, c'est reconnaître que chacun, chacune, on agit selon ce qui nous semble favorable. En fonction de nos ressources du moment, de notre histoire personnelle, de l'histoire culturelle. Mais chacun, finalement, chacun, chacune dessert ses propres intérêts. Et comprendre que l'autre n'est pas là pour répondre à mes propres intérêts, ça me paraît fondamental pour rentrer dans des relations où on respecte le fait que chaque individu a des intérêts différents et des intérêts communs. Faire une relation, c'est mettre en place un ensemble d'intérêts communs, tout en gardant des intérêts propres. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que je souhaite que l'autre vive ? Et en fait, souvent, on a tendance à plutôt imaginer qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble. Et c'est une question qui est importante, bien sûr, mais qu'est-ce que je souhaite que l'autre vive avec moi et avec d'autres ? Dans la relation et en dehors de la relation, c'est aussi intégrer la dimension du travail, de... la vie personnelle, la vie spirituelle, tous les domaines dans lesquels l'autre peut s'épanouir. Et est-ce que finalement, j'ai envie que l'autre vive son propre chemin et desserve ses propres intérêts et s'émancipe, pas à travers moi, mais s'émancipe tout court. Et comment je soutiens l'émancipation de l'autre ? Finalement, ça fait appel à la notion d'autonomie. Et quelque part, on peut imaginer un monde dans lequel on a envie chacun, chacune, soit autonome et comment, dans mes actions et dans ma relation, je soutiens l'autonomie de l'autre. Et donc, on va pouvoir expérimenter du respect et de l'interdépendance. Alors, l'interdépendance, c'est quoi ? On a tendance à vouloir, dans cette société, favoriser l'indépendance. Notamment, je pense, le courant féministe a vraiment insisté sur l'indépendance des femmes, à juste titre. Et moi, je trouve que c'est très intéressant de cultiver son indépendance, mais c'est oublier qu'on est des êtres sociaux et des êtres de lien et qu'on n'existe pas tout seul. Et donc la notion d'interdépendance, c'est venir reconnaître que je suis dépendant des autres, mais que cette interdépendance, elle n'est pas codépendance. Tout ne dépend pas de l'autre. C'est que nous sommes des maillages d'individus et on a besoin les uns des autres, mais on peut aussi exister à travers soi-même. À la fois, comment je viens aider l'autre à construire une sécurité affective qui ne dépend pas que de moi, une sécurité émotionnelle, et comment je donne la capacité à l'autre de, et l'espace surtout, moi j'aime bien parler d'espace, l'espace à l'autre de vivre pleinement ses émotions, comment je lui permets de les ouvrir. Et c'est vrai que c'est des choses qui finalement, si on regarde à travers les rapports de genre, sont beaucoup faits par les personnes assignées femmes, de permettre dans les discussions d'aller chercher l'émotion de l'autre, de la valider, de laisser l'espace pour construire sa pensée. Et ou dans les duos romantiques, moi ce que j'ai tendance à voir en cabinet, c'est souvent l'émotion de l'autre qui vient me gêner, qui vient me mettre en danger. Et donc comment voilà, on peut changer pour laisser l'espace aux émotions de l'autre. Comment la relation ne devient pas un moyen de combler un manque en soi. Et donc là encore, ça vient parler de l'estime. Est-ce que j'en ai suffisamment pour que l'autre ne vienne pas combler un manque ? Et ça vient faire écho à la question de la dépendance affective. Comment les interactions que je nourris sont de qualité ? Et en fait, on se rend compte, à nouveau là, ça peut être, on peut le voir à travers le prisme du genre, mais comment je viens nourrir des interactions de qualité, des interactions qui me soutiennent, qui respectent, dans lesquelles une intimité, une vulnérabilité est possible. Et par exemple, les hommes sont assez, de manière générale, hein, en reprenant juste la question du genre, les hommes sont assez coupés de cette qualité du lien, où on va finalement être côte à côte, mais pas l'un avec l'autre. Est-ce que finalement, quand j'exprime mon moi, j'ai la liberté de le faire avec authenticité, ou est-ce que je me conforme à ce que je pense que l'autre attend de moi ? Et si je suis moi-même, est-ce que j'ai encore l'amour de l'autre ? Si c'est pas le cas, il faut peut-être aller voir ailleurs. Et après, il y a la question de la pression et de la dépendance. On peut penser notamment à la dépendance économique.
Je le répète, il y a toujours la théorie, les normes et ce que font vraiment les gens. C'est-à-dire contourner les règles. Ces règles sont toujours discutées, notamment chez les artistes, bien sûr, ou les catégories de population un peu punk. Exemple, Gustave Courbet, donc peintre du 19e, lui voulait pas se marier et il a dit, je cite, « L'artiste qui se marie n'est pas un artiste, mais un propriétaire. » Toujours prêt à se courroucer quand on vient chez lui, et qui dit « ma femme », comme il dirait « ma canne » ou « mon parapluie ». On peut citer des penseurs du 19e siècle, comme Charles Fourier. C'était un philosophe qui voyait dans le système conjugal une tonne d'effets négatifs, et qui prenait une organisation non pas autour du couple nucléaire, mais justement une organisation communautaire. Un auteur qui sera très repris pendant les contestations sociétales de mai 68, parce que oui, bien sûr, les années 60 et 70, c'est une grande période de remise en cause des modèles établis. Voilà, c'est les hippies qui vivent en communauté, qui ne se marient plus et on baise en dehors du mariage. Enfin, les mouvements féministes des années 70 aussi, ils ont joué un grand rôle dans la libération des corps et dans leur droit à disposer d'eux-mêmes. Par contre, pour ce qui est de l'idéal du couple, force est de constater que le modèle idéal largement dominant, il est resté le couple monogame, amoureux pour la vie. Alors, moins chez les intellos bobos, voilà, moins dans la communauté gay d'ailleurs, qui justement s'est construite longtemps en dehors des normes, avant d'avoir le droit de rentrer dans les normes, ok. Mais en tout cas, se trouver un quelqu'un dans la vie, c'est très important. Et dans l'idéal, on aimerait être très amoureux et que ce soit pour toujours. Et en vrai, c'est normal. C'est normal que la très grande majorité d'entre nous ait envie d'un idéal monogame amoureux. C'est normal au sens, c'est la norme. C'est la norme qu'on nous a forgée depuis très longtemps. Et l'amour signera notre accomplissement total dans la vie. C'est normal, ça fait des siècles qu'on nous martèle ça. Et ce, malgré les contre-modèles qui ont toujours existé. C'est aussi bien sûr parce que la pop culture avec laquelle on se construit, elle est produite par la société dominante et normative. Elle se veut grand public, donc elle présente rarement des trucs différents pour essayer de plaire à tout le monde. Donc ça casse peu les normes. Et en plus, bon bah, elle nous vient en grande partie des États-Unis qui sont très puritains. Bref, on est moins codifié avec le mariage, mais on l'est toujours beaucoup avec la monogamie des sentiments, alors que non, on n'a pas toujours fonctionné comme ça. Ça n'a rien de naturel, c'est une construction sociale. Et attention, je dis pas que c'est bien ou pas bien, parce que oui, une société, elle se construit autour de normes. Ok, je rappelle juste que ces normes, elles n'ont pas toujours été comme ça, et que justement, ce sont des constructions sociales, donc elles peuvent changer.
On parlait d'autonomie dans les couples traditionnel. Peut-être qu'on peut avoir la sensation de permettre de l'autonomie à l'autre dans le cadre d'activités. Enfin, tu vois, donc on se sent aligné par rapport au fait d'être tout à fait OK dans l'autonomie de sa partenaire. Là, on parle de relations polies, amoureuses. L'autonomie de l'autre, c'est aussi permettre une ouverture dans sa relation, donc amoureuse, sexuelle. Vous le situez où ? La conscience de l'autonomie de l'autre, en fait, tu vois ?
C'est un endroit qui peut être très délicat, parce qu'en effet, il y a des couples qui fonctionnent très bien, chacun a ses activités, chacun est dans l'interdépendance, et il n'y a pas de souci. Et puis en fait, quand on va passer à des niveaux d'intimité plus élevés, à savoir partager des sentiments amoureux, ou partager de la sexualité, là, on arrive sur des zones rouges, on va dire. Mmh. Des endroits qui vont activer émotionnellement la peur, parce que derrière, il y a des besoins, le besoin d'être choisi, le besoin d'être unique, le besoin d'être spécial. Et finalement, on vient se poser la question de qu'est-ce qui est sacré dans ma relation que je ne peux pas partager avec d'autres. Et en fait, là encore, on peut revenir à « mais qu'est-ce que je veux que l'autre vive ?» Moi, je suis polyamoureux depuis des années, donc aujourd'hui, c'est plus une question, mais par exemple, la question de partager de la sexualité, c'est plus du tout un trigger. ça ne déclenche rien. Par contre, les sentiments amoureux, ça va être parfois un peu plus difficile. Ça va faire naître quelque chose de « Ok, en quoi moi je suis différent pour ma partenaire, en quoi je suis différent de l'autre ?» Et en fait, là, on va pouvoir venir rassurer, mais on se rend compte que là, derrière, est-ce qu'il y a une logique de propriété sur le corps ? Parce qu'il y a quand même des personnes là qui parlent en ce moment de... Il y a le nouveau bouquin de Fidélité Mes Fesses qui a parlé de l'autonomie corporelle. Donc est-ce que ce que je décide pour mon corps, finalement ça m'appartient et personne d'autre n'a le droit de me dire ce que je dois faire avec mon corps. Oui, mais en fait, si ça fait souffrir l'autre, on est dans une vision
individualiste,
je prends pas en compte l'autre. Et donc là, en fait, c'est des phases de manœuvre, de négociation, de qu'est-ce que ça vient faire nourrir chez moi, le fait que tu partages de l'intimité émotionnelle et sexuelle avec un autre, ou est-ce que ça vient me faire douter de ma valeur, et est-ce qu'il y a une peur réelle aussi, parce que en vrai des fois on dit oui c'est des projections, oui en fait il y a des peurs, c'est tout à fait réel, c'est-à-dire que il y a une ouverture parce que à un moment l'autre a l'intention, ou pas l'intention mais en tout cas la possibilité de partir avec quelqu'un d'autre. Mais ça, le souci, c'est que c'est la tolérance à l'incertitude. Et que nos cerveaux humains ne supportent pas l'incertitude. Et sauf que, du coup, on essaie de mettre des règles dans les couples monogames. Voilà, il y a l'exclusivité qui est censée être... l'exclusivité romantique et sexuelle qui est censée être le garant qu'on n'aille pas voir ailleurs. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Enfin, 40% des personnes trompent dans les couples monogames. Ça ne protège pas. Mais on se donne l'illusion de la certitude. Et en fait, je pense que rentrer dans les relations plurielles, c'est aussi accepter qu'il y a de l'incertitude. Et que, oui, les relations vont et viennent, et on ne peut pas retenir l'autre. La seule chose, finalement, qui retient l'autre, c'est la réciprocité. C'est-à-dire, l'autre a envie d'être là. Et c'est tout, c'est la seule chose qui retient.
Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'être monogame et fidèle, parce que l'idée que la personne aille voir ailleurs, ou que même soit on aille voir ailleurs, ça réactive en eux des peurs d'abandon qui généralement sont liées à des structures familiales dans l'enfance, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas complètement contrôler. Moi, je vois bien que le fait que je suis hyper relax sur la question, c'est aussi parce que... Je me fais pas plaquer parce que mes parents m'ont toujours aimée, parce que j'ai toujours eu l'impression d'être très validée. Donc je viens d'un environnement hyper fonctionnel où j'ai jamais eu peur qu'on m'abandonne. Donc je n'ai toujours pas peur qu'on m'abandonne aujourd'hui. Et peut-être que notre relation à la fidélité, il y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on choisit moins, puis aussi des trajectoires sexuelles. I want my boyfriend's kiss, swap spit. Lock lips, if you love me, prove it. We can switch, call that banana split. Switch him, if you love me, prove it. Don't need a hit when I've got gear shifts. If I had one wish, my boyfriends would kiss. Kiss, 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 friends to kiss, swap spit, lock lips, if you love me, prove it, double dip, grab his hips, I'm sick of this, can my boyfriends just kiss, to this music, I'd fucking lose it, go on, do it, what the fuck, kiss, 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 kiss.
Et donc tout ça nous amène à questionner les fonctionnements des relations. Est-ce qu'on arrive à savoir qui je suis avec l'autre, qui nous sommes quand nous ne sommes pas ensemble, et quels sont nos intérêts communs dans cette relation, et les intérêts qui sont au contraire contradictoires, et arriver à se questionner sur ces points-là, vont nous permettre en fait de créer une équipe et dans laquelle chacun et chacune va pouvoir exister en dehors de la relation et au sein de la relation. Et il va y avoir d'autres questions qui vont venir, qui vont être amenées, comme est-ce que je permets à l'autre de poursuivre ses intérêts sans moi m'effacer, sans nier mes propres intérêts ? Et à l'inverse, en fait, est-ce que je permets à l'autre d'explorer ses propres intérêts, de les valoriser sans l'étouffer, sans lui demander de minimiser ses intérêts. Et on va parler en fait des notions de fusion, de sacrifice, et du fait qu'on peut, on peut vivre et se valoriser les uns les autres sans s'éteindre. Et ça, c'est quelque chose. Et du coup, ça vient poser la question du contrôle aussi de l'autre, ou sur la relation.
Un des facteurs qui peut expliquer ça, c'est la question de l'attachement. Et notamment, les personnes qui ont donc, des attachements qui sont plutôt anxieux ou évitants, ça va être la peur de perdre le lien à chaque fois, qui va être exprimée de manière différente. Et donc, on peut se sentir anxieux quand l'autre développe sa propre autonomie. Et ça va venir nous mettre en danger sur notre valeur. Et on va pouvoir réagir dans les attachements insécures de deux manières différentes. Soit par le rejet, je me mets suffisamment à distance par peur de perdre le lien. Ou soit par anxiété, donc je vais avoir besoin d'énormément de réassurances qui va être débordante pour toujours ne pas perdre le lien.
Et cette impression de danger, elle n'est pas forcément réelle. C'est pas parce que l'autre a des loisirs en dehors de la relation ou fréquente d'autres personnes que ça veut dire forcément qu'il se désintéresse ou elle se désintéresse de nous. Et c'est là où c'est important d'arriver à faire la différence entre le danger réel et notre peur interne, notre insécurité interne, pour savoir si ce besoin de contrôle, à quoi il répond, qu'est-ce qu'il cherche à protéger. Et donc on peut se poser la question de dans quelle situation je me sens en danger. Dans quelle situation j'ai besoin de mettre du contrôle, de reprendre du contrôle, soit sur l'autre en lui imposant des règles où il ou elle ne peut pas faire certaines actions, par exemple, ou sur la relation en disant bah, « notre relation, elle est bien, on la cadre sur certaines choses ». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va me permettre, en fait, de moi avoir l'illusion d'une disparition, d'un danger, par exemple ?
C'est très important dans les relations plurielles, puisque du coup, on parle souvent de cadre, etc. On a tendance à vouloir justement beaucoup cadrer, voire à mettre des règles qui sont très rigides. Et finalement, les règles rigides, ça fonctionne très peu. C'est-à-dire qu'il y a plutôt l'idée de se questionner sur ce que veut vivre l'autre, comment j'ai envie que tu t'épanouisses. Et pour pas être justement dans l'imposition de beaucoup de règles qui vont figer les situations. Et si je me sens en danger, de toute façon, je vais trouver le moment où t'as pas respecté exactement une règle et ça va pas être du tout constructif et flexible. Parce que finalement, dans les accords, dans les relations plurielles, les accords sont progressifs, évolutifs, en fonction de la situation, en fonction de mon sentiment de sécurité qui va évoluer. Et en fait, là où au départ on a souvent tendance à mettre des accords qui sont assez restreignants pour ressentir la sécurité, on se rend compte que plus le sentiment de sécurité interne grandit et plus on est souple finalement sur les accords qu'on peut mettre en place dans un duo.
Et puis il y a des choses qu'on confond assez facilement aussi, c'est la différence entre règles et limites. La règle, ça va être quelque chose qu'on va imposer à la relation ou à l'autre pour nous protéger nous-mêmes d'une peur qu'on peut avoir. Alors que la limite, ça va être la capacité de dire « Bah en fait, moi, dans telle situation, je ne me sens pas bien. » Et c'est quelque chose de tout à fait différent parce qu'on n'est pas dans la coercition par rapport à l'autre. On va être dans l'expression de « Qu'est-ce que je ressens ? Où est-ce que j'ai peur ? Où est-ce que j'ai besoin d'être assuré ? Et comment on peut construire la relation pour que cette limite, en fait, ne soit pas atteinte, par exemple ?»
Et la limite vise à se protéger soi-même, pas à restreindre les autres. Ce sentiment de danger, il vient aussi parler du sentiment de fusion. En tout cas, il peut venir parler de ça. Et on voulait revenir sur le mythe de l'autre comme moitié de soi. parce que je pense que ça, c'est vraiment une idée donc, qui vient du banquet de Platon dans le discours d'Aristophane. C'est une idée qui fait toujours des dégâts. On imagine que deux êtres se complètent. Donc, pour rappeler cette histoire, ce n'est rien d'autre qu'une histoire, c'est l'idée qu'à la base, nous sommes un être avec...
quatre jambes, quatre bras, deux têtes, deux cœurs, et qu'en fait, on a été violemment séparés d'une moitié de nous-mêmes, et qu'on va passer notre vie à chercher notre moitié, la personne, la bonne personne. Et donc, on va chercher un autre être idéalisé qui nous complétera parfaitement et dans lequel, en fait, on deviendra chacun une moitié de couple et qu'on n'existera plus vraiment individuellement l'un par rapport à l'autre. Ouais. Et ça, c'est un schéma qu'on nous montre énormément dans les œuvres de culture, dans les médias, dans la littérature, dans les films, dans les séries, où on a cette recherche idéalisée de la bonne personne. Et même souvent, en fait, on voit, je prends l'exemple des films ou des séries, l'histoire des personnages, c'est cette recherche de la personne, la rencontre de la personne. Et souvent, l'histoire s'arrête, en fait, à partir du moment où les personnes se sont trouvées et on n'a pas l'après.
Alors que l'après, c'est des discussions, c'est la communication, c'est trouver des consensus et... ça n'existe pas l'autre qui complète. Bon, en plus, spoiler, ça a l'air d'être très hétéro, toute cette histoire. Et donc, ce couple fusion qui ressemble à un idéal, il fait beaucoup de tort. Et dans les relations plurielles, on essaie un peu de mettre fin à cette histoire de l'autre comme moitié de soi.
Et donc, si on veut sortir de ces mythes hétéronormatifs, de fusion, de couple qui n'existe que l'un à travers l'autre, il faut être capable de se regarder vraiment et de faire preuve d'honnêteté envers soi et envers l'autre. Il y a un concept auquel on tient beaucoup au sein de l'association et entre nous, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté radicale.
Bon, inutile de vous dire que j'adore ce concept d'honnêteté radicale. Qu'est-ce que ça change concrètement, en fait, dans une relation, de s'engager dans une forme d'honnêteté radicale ? Parce que c'est pas si évident que ça, non plus, de dire véritablement ce qu'on ressent. Est-ce que vous mettez une limite entre les concepts de sincérité, de responsabilité, de respect de l'autre ?
Je te propose de commencer par une petite définition de ce que c'est que l'honnêteté radicale.
Évidemment.
C'est pas forcément quelque chose que... tout le monde connaît ou a déjà entendu parler. Le principe de l'honnêteté radicale, c'est très simple, mais c'est exigeant, c'est de dire la vérité. Et cette vérité, en fait, c'est pas juste ne pas mentir, mais c'est dire réellement ce qu'on pense et ce qu'on ressent, sans masque, sans se cacher, sans édulcorer également. Alors, le but, c'est pas d'être méchant, d'être brutal avec l'autre, mais c'est de dire un peu sans fard ce que l'on ressent, ça n'empêche absolument pas la bienveillance et le tact, mais c'est parler de soi et dire réellement, en fait, répondre très sincèrement à une question. C'est un peu l'antithèse du « salut, ça va ». Quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi que tu ressentes, là, on est dans l'opposé total de l'honnêteté radicale. Voilà. Mais ça, c'est pas un exercice auquel on est habitué, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Au contraire, en fait, on nous apprend des petits à lisser et à polisser ce qu'on dit, à polisser nos émotions pour entrer notamment dans les rôles genrés. Quand on est un homme, ça va, on est fort, ou à la limite, on peut être conquérant, en colère. Quand on est une femme, ça va, on est douce, et on fait en sorte que nos émotions ne débordent pas et n'impactent pas négativement, entre guillemets, ne crée pas d'inconfort chez les autres. Et donc, là-dedans, ça ne nous permet pas, en fait, d'incarner cette honnêteté radicale qui, pourtant, en fait, permet de dire les choses et d'avancer ensemble.
Après, tu as parlé de la responsabilité. C'est important d'être, en effet, pas dans un déversoir. L'autre reçoit sans filtre absolument tout. C'est justement de réussir à être dans un niveau émotionnel où je suis capable d'exprimer, mais sans aller heurter l'autre. On n'instrumentalise pas ses émotions pour obtenir ce qu'on veut de l'autre. On est plutôt dans j'exprime ce qui se passe pour moi et je m'intéresse sincèrement à ce qui se passe pour toi.
Et donc c'est quelque chose qui peut être assez inconfortable et difficile, surtout que, comme je disais, on n'a pas appris à le faire. Et donc ça oblige à faire face à ses blessures récente ou ancienne, à ses peurs, à ses regrets, et à être conscientisé en fait qui l'on est et ce que l'on ressent. Mais c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour être authentique envers soi-même et envers l'autre. Et quand on arrive à reconnaître nos propres vérités, alors on peut entrer dans une relation beaucoup plus sincère avec les autres. beaucoup plus sincère et beaucoup plus aligné. Et comme on le disait, c'est pas quelque chose d'égoïste, on n'est pas dans le déversement de ses émotions sur l'autre, on n'est pas dans la présentation de ses émotions sans tact et avec une inconsidération de si ça peut blesser l'autre. On est dans le fait de pouvoir s'exprimer sans jugement et dans la réciprocité. Et ce qui permet en fait de chacun se soutenir et de grandir ensemble.
L'honnêteté radicale est particulièrement précieuse pour les personnes neurodivergentes.
Évidemment.
En fait, comme tout est culturel, on est dans une société de l'implicite. C'est-à-dire qu'on vient analyser, scanner en permanence les autres êtres humains et essayer d'en tirer des conclusions. On a un cerveau qui fonctionne très bien pour ça. Mais en fait, les personnes neurodivergentes, c'est une réelle difficulté. Mmh. Et rentrer dans une communication radicalement honnête, c'est aussi sortir de la culture de l'implicite pour aller vers la culture de l'explicite, qui est favorable pour les personnes neurodivergentes, mais également pour les personnes polyamoureuses, parce qu'on ne peut plus, à plusieurs, être en permanence en train de projeter sur les autres. Donc oui, ce concept, il sort pas de nulle part pour nous, parce qu'il fait lien avec nos communautés, qui sont à la fois polyamoureuses et beaucoup neuroatypiques, en fait.
Et sortir de l'implicite, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes définitions des mots qu'on utilise couramment. Par exemple, juste le terme d'amour, chacun va y mettre des valeurs, une matérialité qui va lui être propre. Et dans une société où tout est implicite, on va considérer que notre définition de l'amour, pour reprendre cet exemple, si on ressent l'amour comme ça, en fait, c'est un peu universel. Et donc forcément, les autres, quand ils parlent d'amour, ils parlent des mêmes choses. Mais chacun va avoir sa petite définition personnelle qu'il va considérer comme universelle. Et en fait, on va se retrouver face à des incompréhensions, à des maladresses, à des choses qui vont pouvoir se blesser sans intention, parce qu'en fait, on n'aura pas projeté les mêmes définitions. Arriver dans une démarche d'honnêteté radicale, ça va être sortir tout cet implicite, c'est dire, ok, dans amour, dans relation, dans couple, qu'est-ce que tu mets toi concrètement? Qu'est-ce que tu attends du couple? Qu'est-ce que tu attends de ressentir comme émotion? Qu'est-ce que tu attends comme partage de temps, comme partage de sexualité? En fait, tout est discutable et tout est explicité, et c'est ce qui nous permet de voir en fait où est-ce qu'on va être d'accord, et où est-ce qu'on va avoir des divergences. Et avoir des divergences, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément néfaste, mais en fait, si on n'en a pas conscience, on peut se faire mal très bêtement. L'idée, c'est d'éviter ça au maximum. Après, c'est comme pour tout, même en étant concerné par des neurodiversités, le langage, la verbalisation, ce sont des choses qui s'apprennent. Et en fait, pour ça, il faut créer le bon cadre pour communiquer, il faut créer en fait un endroit où on se sent en sécurité pour le faire. Et il y a quelque chose qui nous bloque assez souvent, c'est de vouloir trouver le bon moment pour en parler. Et en fait, ce bon moment, il n'existe jamais. Si on ne le crée pas, si on ne le met pas en place, ce bon moment, c'est un endroit qui est idéalisé dans un futur plus ou moins proche. Mais en fait, si on ne l'aide pas à arriver, il n'arrive pas. Et ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête si on veut pouvoir communiquer un peu plus facilement.
Il faut aussi rencontrer, je dirais, le bon concept. Tu dis, on évolue tous avec notre vocabulaire qui change, qui se transforme avec le temps, qui s'enrichit, etc., etc. Mais tant que tu n'as pas un concept de relation que tu ne pouvais pas soupçonner avant, parce qu'on te propose autre chose, il faut arriver à le rencontrer, ça. Il faut bien, à un moment donné, dans ton parcours, qu'on te le propose.
Là, on a un gros problème, je pense, c'est que notre société, elle est faite pour faire des individus qui vont produire une force de travail dans un système capitaliste. Et on n'a pas créé une société pour avoir un maillage de liens humains satisfaisants et confortables. Donc en fait, là, on est sur une critique anticapitaliste qui, je pense, est de toute façon indispensable. Mais parce que on nous apprend pas les outils de base de fonctionner ensemble. On sait percolé par la famille, l'école et la culture. Et en fait, la connaissance, elle est là. En fait, tout ce qu'on dit, on l'a pas inventé, on l'a appris. C'est dans des livres, c'est dans la socio, c'est dans la psycho, c'est dans les études de genre, c'est dans l'histoire. Et tout ça, ça existe, mais j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de fenêtre indépassable, parce que si on prenait en main ces concepts, si on commençait à les appliquer, on serait obligé de changer de société de manière totalement radicale. aujourd'hui, à la fois on est dans une société hyper connectée, donc on a accès à plein de nouvelles façons de voir les choses. En vrai, moi je vais pas faire du cracher sur les réseaux sociaux, on apprend énormément de choses sur cette hyperconnexion, et en même temps qui nous renvoie en permanence vers ce qu'on sait déjà, ça c'est les algos. On voit que ça avance par vagues, et moi je sais absolument pas dans 10 ans où ça en sera l'ouverture, par exemple sur les relations plurielles. Aujourd'hui, oui, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, où on peut rencontrer un peu dans des livres, des contes, etc. On peut rencontrer cette réalité-là, et en même temps, peut-être dans 10 ans, ça sera complètement retombé, on n'en sait rien. Mais c'est sûr que l'accès à toute cette remise en question, ça parle aussi d'une position privilégiée de classe, il ne faut pas se mentir. Ça vient aussi avec nos ressources. En fait, quand on a une vie de galérien-galérienne, polytraumatisée et plein de galères, on n'a pas forcément le temps de cerveau pour parler de « mais quelle est ma conscience de moi ?» etc. Ça, c'est aussi une réalité. Et comme tout est fait pour qu'on soit dépendant économiquement d'un système où il faut vendre sa force de travail, rentrer chez soi, crever le soir, on parle de relations plurielles, avec l'idée d'interdépendance, etc. Pardon, mais la réalité économique, c'est aussi qu'il y a des gens qui peuvent juste pas se permettre d'être autrement qu'à deux dans des tout petits apparts. Faut absolument pas nier cette dimension.
Je vends que ta comète elle s'éclipsait, le corps luisant, l'âme d'un enfant, la pluie d'étoiles s'est effacée, le cœur dansant bien au perché, espère pourtant te retrouver. Et toi comète, si tu entends, danse avec nous, reviens briller. Au doux rêveur, ce soir je vends que ta comète elle s'éclipsait, le corps luisant, l'âme d'un enfant, la pluie d'étoiles s'est effacée, le cœur dansant.